Bonsoir à toutes et à tous, c'est du grain à moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Loi de moralisation ? Bien sûr que non. La morale précède la loi ne crée pas la morale. Loi de nature à rétablir la confiance ? Ce sera la 31e loi depuis 1985 sur ces sujets, n'en attendons pas trop. Au moins, les choses ont le mérite d'être claires. Pour le président de la commission des lois au Sénat, le républicain Philippe Bas, qui s'exprimait ainsi hier, la loi de rétablissement de la confiance dans l'action publique, nouveau nom de la loi de la moralisation, a peu de chances d'atteindre son but. Pour le sénateur, qui retrouve là un argumentaire qu'on a vu beaucoup utilisé au profit de François Fillon pendant la campagne présidentielle, il est plus urgent, pour rétablir cette fameuse confiance, de régler les vrais problèmes, chômage, économie, sécurité. Moralisation, transparence, encadrement de la vie publique, quelle que soit la façon dont on aborde la question, il est pourtant difficile de nier qu'on touche là une attente forte des Français et à un enjeu démocratique. Selon une récente enquête IFOP, 60% des personnes interrogées trouvent que la démocratie fonctionne mal et la suspicion sur la corruption des représentants atteint des records. L'enjeu est de taille, mais est-ce que la loi actuellement discutée est à la mesure ? La moralisation peut-elle lever la suspicion ? C'est la question du grain à moudre d'été jusqu'à 19h. À écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Trois invités pour répondre à cette épineuse question et au moins deux philosophes autour de la table. Myriam Revaud-Allon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de philosophie éthique et politique. On vous doit, c'était en 2002, doit-on moraliser la politique ? Mais votre ouvrage plus récent, Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique, est aussi utile, qui était paru au Seuil en septembre 2016, est aussi utile pour notre émission de ce soir. Patrick Savidan, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe également, professeur de philosophie politique à l'Université Paris. Reste Créteil. Voulons-nous vraiment l'égalité ? C'est une bonne question et c'était le titre de votre dernier ouvrage aux éditions Albin Michel. Et enfin, Pierre Lascoum, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et juriste, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous aviez traité justement de ce thème de la corruption, de la confiance, de la criminalité en col blanc. C'était dans un ouvrage publié aux éditions Armand Collin en 2014, Sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique. Voilà, on est armés pour répondre aux questions qui nous occupent ce soir. Mais je voudrais commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on s'interroge d'abord sur les termes employés. Voilà, j'y arrive. On parlait dans un premier temps de loi de moralisation de la vie publique. C'est devenu la loi de rétablissement de la confiance dans l'action publique. Et maintenant, les sénateurs veulent changer encore une fois le nom de cette loi. Ils proposent pour la régulation de la vie publique. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais on passe quand même de la moralisation à la confiance, de la confiance à la régulation, et surtout on alterne entre des questions qui concernent la vie publique et des questions qui concernent l'action publique. Alors Myriam Revaud-Allon, sans faire une dissertation de philosophie sur l'utilisation de ces termes, malgré tout, c'est important ce glissement sémantique.
Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas, mécontente de l'abandon du terme de moralisation, dans la mesure où, comme vous avez rappelé, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Doit-on moraliser la politique ?» où j'essayais précisément déjà, c'était après 2002, l'élection de 2002, au fond de distinguer ce qu'était la morale privée, celle qui relève de la conscience morale, du fort intérieur, et l'éthique publique ou l'éthique politique. Et parler de moralisation de la vie publique, ça induit très certainement des confusions. Des confusions chez les citoyens, chez les gens, c'est-à-dire, au fond, ils pensent qu'une loi de moralisation de la vie publique doit rendre les hommes politiques vertueux. Bon, or c'est pas du tout la question. On n'a pas besoin d'être vertueux pour faire de la politique ou pour mener une action publique. Je rappelle ici la phrase de Kant, philosophe moral par excellence, qui disait on peut faire une république avec un peuple de démons à condition qu'ils aient quelque intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre ce qui est de l'ordre, au fond, du fort intérieur, des intentions morales, et la conduite publique, la conduite dans l'éthique publique. Donc, dans la mesure où le terme de moralisation est un vecteur de confusion, je suis assez satisfaite qu'il ait été abandonné et je trouvais que au fond, l'expression de l'introduction du terme de confiance était assez bienvenue, dans la mesure où effectivement il s'agissait de prendre des mesures qui restauraient ou qui rétablissaient la confiance des citoyens à l'égard des pratiques politiques.
On va voir si elles sont suffisantes.
Alors la troisième étape, régulation de la vie publique, là je suis un peu perplexe parce qu'il me semble que au fond, l'intention ou ce qui préside d'une certaine façon à l'esprit de cette loi a été abandonné au profit d'un espèce de vocabulaire qui est à la fois très abstrait, qui ne doit pas dire grand-chose aux citoyens.
Non, rappelons que c'est une proposition des sénateurs, qu'elle ne restera
et un
pas...
Peu, je dirais un peu technocratique. Voilà.
Patrick Savidan.
En première approximation. Voilà ce que je
de fait, dirais. Ce qui est étonnant, c'est une évolution dans le titre de la loi, déjà en soi, sur un délai très, très rapproché, qui donne un peu, sans vouloir faire là non plus une dissertation, mais en tous les cas, ni faire le professeur, mais s'interroger sur la rapidité avec laquelle le gouvernement a rendu sa copie. C'est-à-dire qu'un bon titre, généralement, c'est un titre qui reflète exactement l'objet du travail intellectuel qu'on se propose de mener.
C'est notre exercice quotidien dans cette émission.
Voilà. Et très clairement, ce travail d'élaboration préalable n'a pas été suffisamment élaboré en amont, avec les rencontres, les consultations que ça impliquait, pour pouvoir être à peu près certain sur le titre, le contenu, sa délimitation de ce que l'on veut réaliser, ce que l'on veut proposer aux Français. Donc il y a déjà un indice fort qui est un indice de précipitation autour de cette réflexion, qui montre que la confusion n'est pas simplement dans le public démocratique, mais qu'elle est peut-être aussi dans le représentant politique. Donc il y a quelque chose d'assez troublant à ce niveau-là. Après, je suis tout à fait d'accord pour dire, avec Myriam Revaud-Allonne, qu'il y a des ambiguïtés autour de la notion de moralisation, mais en même temps, ça capture bien quelque chose de l'attente des Français, comme vous le disiez, à l'égard de la classe politique, à l'égard de tout type de gouvernant. C'est-à-dire que ça s'applique aussi à des chefs d'entreprise, parfois, cette exigence de moralisation. Donc il y a quelque chose ici, même si on comprend bien pourquoi on peut avoir des réserves à l'égard de moralisation. On craint les formes de dogmatisme que ça peut impliquer, on craint les formes de paternalisme que ça peut induire, on craint les formes de perfectionnisme aussi, où on aurait une classe politique qui se mettrait en tête de vouloir rendre vertueux les citoyens, etc. etc. Donc bien évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut comprendre l'écart entre morale et politique. Mais en même temps, ne pas voir le lien qu'il y a entre les deux, c'est laisser échapper quelque chose de la complexité de notre vie morale en démocratie.
Pierre Lascoum, vous êtes d'accord, ce changement de nom traduit une certaine précipitation, une certaine confusion. Est-ce qu'on est là encore face à une loi de réaction, une loi qui n'a pas été suffisamment pensée? Pourtant, j'ai l'impression, moi, que d'abord, ça a été beaucoup discuté pendant la campagne présidentielle et que, en règle générale, ça fait des années, parlons de l'affaire Cahuzac, remontant encore plus loin, sans parler des 31 lois évoquées par le sénateur.
Qui n'existent pas.
Bon, je ne sais pas comment il a calculé, mais voilà. Mais c'est vrai que... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une loi de réaction?
Alors, d'abord sur les termes, je veux dire que dans l'action gouvernementale, il y a toute une part de communication. Donc, le terme transparence a été amplement utilisé pour des lois précédentes. Et le terme qui conviendrait le mieux, qui serait la défense de la probité publique, est toujours considéré par les politiques comme accusateur, puisque c'est disons toute une section du code pénal qui est intitulée défense de la probité publique et donc faire trop rapidement un lien entre les comportements des politiques et de possibles infractions, ça les choque toujours. Donc je crois que il y avait certainement l'idée de chercher quelque chose, mais je suis tout à fait d'accord sur l'idée que le mot moralisation était extrêmement malvenu. Vous avez bien développé ça. Alors maintenant la deuxième chose, c'est que par rapport aux attentes, et pour faire le lien avec votre sujet principal sur en gros morale et politique, de mon point de vue, ce qui est central, c'est que l'on a affaire à des individus ou à des groupes, donc les acteurs politiques, les hauts fonctionnaires, mais aussi les partis, les responsables des sociétés publiques, qui ont des responsabilités publiques, qui utilisent des fonds publics et auxquels on demande de rendre des comptes. C'est quand même ça le fond de l'affaire. Et c'est ça qui leur pose problème, d'où la paranoïa de ce charmant sénateur qui invente 20 et quelques lois, puisque en fait depuis 1988, il y a eu 8 lois et une douzaine de décrets. C'est déjà beaucoup. Mais évidemment, pour les politiques, il y en a toujours trop. Voilà. Et puis, la troisième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à ce que vous venez de dire sur... Est-ce que vraiment les attentes des citoyens sont, en termes de morale, le sociologue que je suis, sociologue du droit, je dirais plutôt que les citoyens, vu les enquêtes que j'ai pu faire sur des terrains concrets, sont plutôt en attente, d'une part, de règles précises. On le voit bien sur la question de tout ce qui s'est déroulé autour de l'affaire Fillon et de tout ce qui est finalement ces situations qui heurtent le sens commun, peut-être donc la morale ordinaire, mais qui sont légalement possibles. Donc je pense que les citoyens attendent d'un côté des règles, et ils attendent aussi, puisque depuis 1988, des règles, il y en a déjà beaucoup, sans atteindre le chiffre de 33, et attendent la mise en œuvre et leur degré d'effectivité.
Peut-être sont-ils aussi en attente, Patrick Savidan, de publicité. Il y a un certain nombre de mesures dans cette loi, notamment sur la publication d'un avis de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique sur l'évaluation du patrimoine du président de la République, la suppression de la réserve parlementaire qui est remplacée par un remboursement des frais de mandat sur présentation de justificatifs. On peut aller comme ça, évidemment, décliner les différentes mesures de cette loi. Mais ce que ça montre, si on parle de ces mesures-là, c'est qu'il y a un fort désir de publicité. Les citoyens veulent savoir comment les hommes politiques se comportent. Ils ne veulent plus seulement savoir ce qu'ils vont faire, ils veulent savoir comment ils vont le faire.
Oui, en effet. Alors, ça renvoie à une thématique très ancienne, très classique, qui est celle, finalement, qui consiste à associer la politique au mensal. En vieille antériorité de cette notion, qui consiste à dire que, finalement, sur les moyens, on peut ne pas être trop regardant si la fin que l'on poursuit, elle, est estimable. Très clairement, ce type de comportement passe moins bien. Aujourd'hui, les gens, comme vous le dites très bien, ont aussi un droit de regard sur la question du comment, sur la question des moyens, sur la question, comme vous le disiez très justement, la question de la reddition des comptes. C'est-à-dire il faut être en capacité d'expliquer par quels moyens on a pu obtenir tel et tel objectif. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a quelque chose de très fort qui relève d'une éthique démocratique, tout simplement, et qui est la condition de la vie démocratique, on le sait depuis le XVIIIe siècle, qui était consubstantielle à la naissance d'un espace public, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'exprimer dans un espace, faire circuler des idées, mais également montrer comment l'action publique se dévoile, montrer les types de conduites dont on est capable pour pouvoir être évalué. Parce que ce qu'on voit effectivement, c'est que les citoyens jugent d'un point de vue moral, non seulement les politiques publiques, mais également les politiques eux-mêmes.
Myriam Revaud-Dallon, ce que vient de dire Patrick Savidan est intéressant, parce qu'il montre l'antériorité de ce besoin de publicité. Oui. On pourrait croire que c'est un sacrifice à l'ère du temps, ou dans une époque où tout doit être su, tout doit être transparent.
Non, pas du tout. Mais alors, ce qui est un peu dans l'ère du temps, ce qui est plus davantage dans l'ère du temps, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la confusion entre la transparence et la publicité, parce que ce que Patrick vient de rappeler, c'est que c'est un principe des Lumières, de la philosophie des Lumières, que d'avoir avancé ce qu'on a appelé le principe de publicité, c'est-à-dire de rendre contre l'arbitraire du pouvoir despotique essentiellement, qui procédait par le secret, de rendre visible et de rendre public, c'est la publicité des débats dans l'espace public. Et ça, si vous voulez, je veux bien qu'on appelle ça une éthique démocratique ou une éthique publique, mais ce n'est pas la même chose que, encore j'insiste beaucoup là-dessus, que la morale privée, que la pureté des intentions, c'est-à-dire que c'est très différent. Et je crois que dans son premier discours, Bayrou, pendant le court temps où il a été ministre garde des Sceaux, il avait dit quelque chose d'assez juste. Il avait dit il ne s'agit pas de forcer les gouvernants ou les politiques à être vertueux. On ne peut pas obliger les gens à avoir des intentions morales, mais il s'agit d'une certaine façon de faire en sorte qu'ils ne puissent pas faire dans l'espace public ce qu'éventuellement ils auraient envie de faire. Bon, voilà, c'est ça la différence. C'est ça la différence fondamentale entre les intentions morales. On ne demande pas, à ce type de moralisation de la vie de sonder les reins et les cœurs. Le problème n'est pas là.
Pierre Lascombe, justement, ce qu'on vient de dire est intéressant, puisque on a l'impression qu'avec cette moralisation de la vie publique, cette demande faite de transparence et donc de vertu des individus, on a un peu glissé. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, même si c'est présent là aussi dans le texte de loi, que jusqu'à présent, ces questions étaient plus abordées sous l'angle de financement des partis, c'est-à-dire des groupes qui s'occupent de politique, et moins des individus à proprement parler. C'est-à-dire que quand un individu fautait, ça tombait sous le coup de la loi pénale, par exemple, ou administrative, que sais-je, mais peut-être pas sous le coup d'une loi spécifique pour la moralisation de la vie publique. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, ère du temps oblige, on s'attache plus aux questions individuelles et moins peut-être collectives sur ce sujet-là?
Alors, pour juste de mon point de vue, reformuler vos termes, moi je ne parlerai pas de... C'est pas un mouvement vers la moralisation, c'est un mouvement vers la responsabilisation dans l'exercice des fonctions publiques. Voilà, je crois qu'on le dira jamais assez, c'est ça l'enjeu principal. Alors la ligne que vous tracez est juste, puisqu'il faut rappeler que donc depuis 1988, la première loi, on a commencé par s'intéresser au financement des campagnes. Et des campagnes d'abord présidentielles, puis tous les autres types de...
Parce que ce sont les scandales à chaque fois. C'est là, c'était la loi, c'était le scandale urbain et donc de financement du Parti Socialiste.
Et dans un deuxième temps, ça a été la question. On a découvert d'ailleurs démocratiquement, ça a posé un vrai problème. On pense aussi bien au niveau des principes qu'au au niveau de la pratique. On a découvert dans toute cette période après le moment de l'affaire Urbain, c'est-à-dire la fin des années 80, que finalement il y avait une sorte d'impensé dans le fonctionnement de la Ve République et des précédentes sur comment finance-t-on la vie politique. Il y avait chacun se débrouillait, voilà, et il n'y avait pas de règles, à part des grands interdits comme la corruption, des choses comme ça, mais il n'y avait pas de règles et il n'y avait pas non plus d'aide. Donc aussi, c'était une démocratie qui pensait que la vie politique s'auto-générait, s'auto-finançait, etc. Donc d'abord les élections, puis le financement des partis, et progressivement, on est certainement passé d'une responsabilisation des groupes, puisque une campagne, c'est pas qu'un homme, hein, c'est une équipe, c'est très lié à un parti, à une des responsabilisations sur les individus. Parce qu'au fond, on a vu que dans l'exercice des responsabilités publiques, justement, beaucoup de ce qu'aujourd'hui on appelle des conflits d'intérêts étaient des éléments perturbateurs des décisions publiques. D'ailleurs, parmi une des choses originales, espérons qu'elle survivra à travers le processus législatif, puisqu'on est au tout début. Par exemple, il était prévu dans le projet initial introduit par Monsieur Bayrou une obligation pour les députés ou les sénateurs qui avaient un intérêt particulier, c'est-à-dire qui étaient par exemple payés par, tout en étant député, par une société, etc. Donc c'est le cas de Monsieur Ferrand. Voilà, on a découvert avec pas mal de stupeur que Monsieur Ferrand avait été le rapporteur de toutes les lois qui concernaient les mutuelles, alors que parallèlement il était lui-même salarié ou voilà,
poste important mutuelle de Bretagne.
Voilà, et continuait à l'être en étant député. Donc par exemple cette obligation de déport, c'est le terme technique, hein, de pas participer à la délibération et au vote, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui renvoie bien au conflit d'intérêts et où on voit bien que là c'est une question de responsabilité individuelle dans l'exercice des fonctions publiques.
Patrick Savidan.
En fait, là, par rapport à cette question, justement, qui est complexe, parce qu'elle renvoie à la question de savoir comment on peut penser la responsabilité d'un collectif. Il y a deux manières de l'envisager. La tentation qui est la vôtre, si je vous ai bien compris, c'est de dire que finalement, un peu en
je ne fais que poser des questions.
Oui, elles sont bonnes. C'est à la fois de se dire finalement, ce qu'on est en train de sanctionner, c'est une évolution sociologique, sociale, morale, qui donne de plus en plus de place à l'individu dans cette joute politique pour le pouvoir. Et il y a quelque chose de très vrai, mais qui tient aussi à des circonstances politiques qui s'expriment notamment par l'affaiblissement des partis et par un processus qui est celui des primaires, qui avait un effet d'individualisation déjà, puisque c'était finalement des individus qui menaient des écuries, qui pouvaient se positionner, et plus tellement le parti, d'une certaine façon. Et avec l'élection de Macron, on a vu cette tendance-là se parachever, d'une certaine manière, au moins dans les représentations les plus courantes qu'on peut en avoir. Mais l'autre option pourrait consister à se dire que finalement, ce déport vers la question de l'individu et n'est pas la manifestation d'une faiblesse des collectifs, mais l'expression d'une force des collectifs. C'est-à-dire qu'ils arrivent à conserver la capacité à faire croire, finalement, que les problèmes sont des problèmes d'individus. Que si on traite la question sous l'angle individuel, on va pouvoir régler le problème à un niveau structurel. Et là, évidemment, c'est problématique.
Myriam Revaud-Allon, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, mais vous pouvez réagir évidemment, mais j'aimerais qu'on aille aussi un tout petit peu plus loin sur d'autres mesures de cette loi, notamment sur la question de la limitation des mandats dans le temps. Et ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Patrick Savidan, parce que cette limitation des mandats dans le temps, elle suppose que le pouvoir corrompt par essence, en quelque sorte, et que donc il faut s'arrêter à un moment, parce que quand on est élu pendant trop longtemps, et ben on tombe nécessairement dans la corruption. Alors c'est pas qu'une impression, parce que je crois que toutes les études, les gens qui se penchent sur la question le prouvent assez bien.
Je ne sais pas si vous voulez, le sentiment, c'est que le pouvoir corrompt. En tout cas, c'est que le pouvoir s'éloigne de plus en plus. Enfin, la perception d'un trop long exercice du pouvoir, c'est que le pouvoir, au fond, s'éloigne de plus en plus de la réalité politique, de la réalité des citoyens. Et que donc là, c'est le problème, d'une certaine façon, du déficit de la représentation qui se pose très explicitement. Mais on l'a vu aussi, on a vu ce problème qui n'était pas simplement relatif à la corruption, mais on l'a vu au moment de l'affaire Fillon, dans la manière absolument extravagante où on a invoqué le principe de la séparation des pouvoirs absolument à contre-pied. C'est-à-dire, on a invoqué le principe de la séparation des pouvoirs.
C'est-à-dire que les juges n'avaient pas à intervenir dans l'élection.
C'est-à-dire qu'on a fait un contresens absolument délibéré sur un principe absolument fondamental, qui n'est pas tellement le principe de la séparation, mais celui de l'équilibre des pouvoirs. On ferait beaucoup mieux de s'exprimer de cette façon. Et alors, on a utilisé le mot de séparation du pouvoir pour faire croire qu'au fond, c'était une forme d'impunité qui était donnée, comme si les pouvoirs étaient étanches les uns par rapport aux autres. Et donc là, il y a effectivement, là, de cette fois-ci, je suis assez d'accord avec ce que dit Patrick, on remonte à des problèmes qui sont des problèmes structurels, hein, et pas simplement des problèmes conjoncturels, des problèmes structurels d'évolution ou de pathologie ou de perversion au fond de la vie démocratique, de l'exercice de la démocratie, et à des problèmes qui sont aussi relatifs à la subjectivité démocratique. Parce que quand on discute de ces problèmes, très souvent on a l'impression que tout ça relève uniquement de la nécessité de prendre des mesures, d'établir des lois, d'instituer des décrets, etc. Et on n'analyse pas suffisamment, au fond, ce qu'il en est, ce que j'appellerais de la subjectivité démocratique, c'est-à-dire des rapports que les citoyens entretiennent avec le pouvoir. Alors là, il y a un problème qui est à la fois un problème éternel, structurel, et un problème conjoncturel, un problème d'évolution de la relation. Mais la subjectivité, c'est pour ça que quand on parle des attentes des citoyens, même si on doit là aussi préciser les choses, on doit bien comprendre au fond, le pouvoir, c'est une relation.
Pierre Lascoum, c'est vrai ce que dit Myriam Revaud-Allon, il y a une forme de subjectivité, et par exemple, dans la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, il manque un certain nombre de choses, vous me l'avez fait remarquer en arrivant tout à l'heure, je rends à César ce qui appartient à César, et notamment les questions liées au lobby, au conflit d'intérêts, enfin, vous vouliez insister sur ce qui peut manquer peut-être un peu dans cette loi.
Oui, je crois que mon collègue tout à l'heure, en introduction, a dit que finalement, il y avait un des problèmes qui se posent, c'est les conditions d'élaboration de la loi et de préparation. Vous avez dit dans votre présentation que la question avait été très débattue dans la campagne présidentielle. Moi, je n'ai pas eu cette impression, surtout dans le détail. On ne connaît pas, si vous voulez, il n'y a pas eu de groupe de travail, il n'y a pas de rapport préalable, il n'y a pas eu de consultation, etc. Donc voilà, c'est quand même de l'entre-soi. Et comme d'habitude, on cherche à faire un certain nombre d'annonces, dont certaines qui sont très, défendables, comme celles que j'ai indiquées tout à l'heure. Mais il y en a beaucoup d'autres dans le projet. Mais en même temps, il y a toujours des impasses sur un certain nombre de points qui sont identifiés depuis fort longtemps et sur lesquels,
sens, je veux dire, sans être, c'est des impasses volontaires selon vous, ou est-ce que c'est des oublis? Alors, ponctuel. Non, sans prêter d'intention, pardon. Je vais reformuler ma question, parce que posée comme ça, elle est insidieuse.
On revient à quelque chose de structurel. C'est que c'est le rôle de la haute fonction publique
dans les processus gouvernementaux et dans la préparation des lois. Parce que là, évidemment, on voit bien toutes les difficultés que les députés et les sénateurs auront pour mettre des limites et des contraintes sur l'exercice de leur propre fonction, mais ça ne concerne pas que les députés, les députés et les sénateurs, ça concerne aussi les hauts fonctionnaires. Or, l'idée que tous ceux qui, aujourd'hui, sont des gestionnaires de fonds publics, leur demander d'accepter que la Cour des comptes puisse les rendre responsables et les assigner devant la Cour de discipline budgétaire, la Cour des comptes le réclame depuis très longtemps. Mais évidemment, vous voyez, c'est en gros le Conseil d'État contre la Cour des comptes. Très difficile. Alors, d'autres parmi les autres choses quand même très importantes, c'est le fait, par exemple, que nous parlions tout à l'heure des conflits d'intérêts. On le voit bien entre privé et public. On voit bien ça. Mais par exemple, quelque chose qui n'est jamais abordé, c'est le fait qu'aujourd'hui, une affaire, voilà, le rendra visible un jour. Il n'y a aucune limite au fait qu'on puisse exercer en même temps des fonctions administratives importantes, c'est-à-dire être membre du Conseil d'État, membre de la Cour des comptes et y avoir des rôles importants, exercer une fonction politique à côté. C'est quelque chose qui voilà. Un autre exemple que l'on peut donner, c'est le fait que jusqu'à présent le Parlement s'est refusé à ce que la Cour des comptes puisse avoir un regard sur ses propres pratiques financières. Il y a une énorme impasse sur les marchés publics. Vous me faites de grands signes, vous avez raison, parce que c'est un sujet.
On peut aller très très loin comme ça, mais c'est vrai que cette question des marchés publics est également dans l'actualité.
Ça pose la question de la préparation des lois et de pourquoi ne prend-on pas le temps. Vous voyez, je ne sais pas, ici, en trois quarts d'heure, on arrive à lister toute une série de points.
Gageons quand même pour la préparation de cette loi, ils ont passé un petit peu plus de trois quarts d'heure quand même. Enfin, soit-on là.
France Culture, du grain à moudre. Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre d'été, la conversation continue pendant qu'on passe cette petite virgule. Pour vous dire que vous écoutez donc le grain à moudre d'été, France Culture, et qu'on parle moralisation. La moralisation peut-elle lever la suspicion, avec les philosophes Myriam Revaud-Dallon et Patrick Savidan, et avec le sociologue Pierre Lascoum. Vous vouliez réagir, Myriam Revaud-Dallon.
Oui, je voulais simplement faire la remarque qu'effectivement, au fond, il y a un problème de communication aussi, assez réussi d'ailleurs, de la part du pouvoir en place et dans sa campagne électorale, qui a été qu'on savait très bien que ces mesures de moralisation de la vie publique seraient très bien acceptées. Elles étaient attendues, elles risquaient de faire consensus, et que donc ça a été aussi mis en avant au niveau de la communication politique, et de manière assez efficace et assez habile.
C'est voilà. Aussi un enjeu de tactique politique. Remarque. Vous parliez de François Bayrou tout à l'heure, c'était l'une de ses conditions pour se rallier. Absolument. À Emmanuel Macron. Patrick Savidan, si on avance un petit peu et qu'on pose véritablement cette question de relation entre moralisation et confiance, par exemple, puisque c'est au cœur du projet de loi tel qu'il est. On a analysé un déficit de confiance entre les Français et leurs représentants. Il est analysé depuis longtemps. Je crois que lors d'une enquête, c'était l'année dernière, de Transparency France, 75% des Français estimaient que leurs élus nationaux étaient corrompus. Alors, il faudrait s'entendre évidemment sur le terme, mais voilà, ça donne quand même une petite idée. Il y a là-dedans aussi l'idée que les élus sont des privilégiés. Il y a une forme de refus des privilèges qui se jouent là.
Oui. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup manifesté dans le cours de cette campagne autour de l'idée qu'il faudrait, et je pense que la loi de moralisation aussi s'inscrit dans cette dynamique-là, faire de la politique autrement. Tout le monde, aujourd'hui, lorsqu'il cherche à conquérir le pouvoir, dit surtout qu'il ne veut pas conquérir le pouvoir pour en user comme les autres en ont usé. C'est quand même le point le plus commun à l'ensemble des prétendants aujourd'hui. Donc il y a cette idée qui consiste à dire on va faire de la politique autrement, et la moralisation était une manière d'affirmer, c'est un des éléments qui permettait d'affirmer cette distinction que personne ne contestait d'ailleurs sur le plan du discours. Maintenant, il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant qui consisterait à faire une sorte de parallèle, par Parce que la question que vous posiez, c'était la question entre finalement la moralisation et la question des suspicions. Sur la question du sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment d'insécurité qui croît d'une certaine façon? Donc il y a des études qui ont été faites sur l'incivilité, sur les civilités. Le sociologue s'exprimerait avec beaucoup plus de justesse que moi sur cette question-là. Mais on sait, par exemple, Nathan Glaser a fait dans les années 70 des études sur le métro new-yorkais. Okay. Et il montrait que les dégradations, finalement, avaient pour effet d'induire une forme de sentiment d'insécurité. Faire énormément de lois, énormément de décrets, parler énormément des affaires dont on parle aujourd'hui.
Paradoxalement, ça donne aussi.
Finalement,
ce
ça accroît
de
le sentiment d'insécurité, de suspicion et de défiance, tout simplement, parce que ça propage le sentiment, finalement, que ceux dont on parle sont ceux qui sont les plus importants, les plus représentatifs, et c'est donc que toute la politique est pourrie d'une certaine manière. Mais il me semble que, à travers cette question quand même très importante, ce qui est en jeu, c'est pas la question qui vise l'opposition entre morale et politique, c'est de percevoir que dans cette tension entre morale et politique, il y a souvent des dilemmes qui sont des dilemmes moraux. Et j'en prends un exemple, les attentes des Français à l'égard de la société civile et leur attitude à l'égard des conflits d'intérêts. Quand on veut aller chercher des gens dans la société civile, faut pas s'attendre à ce qu'ils aient pas des liens avec le monde de l'entreprise. Et donc, comment fait-on pour gérer cette tension-là? Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous ne sommes pas complètement au clair.
Oui, c'est vrai qu'une façon de faire la politique autrement, c'était d'aller chercher des gens de la société civile. Mais je renvoie les auditeurs vers la leçon inaugurale en rencontre de Pétrarque hier par Jean-Claude Milner, le philosophe et linguiste, qui était absolument passionnante. Et à un moment, il parlait de cette question-là et ce qu'il appelle le désir d'une société plus fluide, d'avoir des inégalités moins rigides et peut-être plus fluides. C'est le choix qu'aurait fait Emmanuel Macron. Mais qu'avec l'arrivée de cette société civile, la société civile accède à un pouvoir, accède donc à des privilèges et donc va être en quelque sorte contaminée, va être amenée à être aussi contredite et accusée d'avoir accès à ces privilèges. Et donc voilà, on refait cette révolution, ce cercle vicieux dans lequel on est pris, Myriam Revaud-Allonne.
Oui, enfin, c'est-à-dire que la société civile accède aux responsabilités politiques. Sociologiquement, c'est pas toute la société. Qu'est-ce qu'on appelle la société civile? C'est une classe moyenne, supérieure, d'entrepreneurs, de start-up. Donc il faut pas dire non plus que c'est un modèle de démocratie, parce que c'est aussi la reconduction dans les responsabilités politiques d'une autre élite, hein, ou d'une forme d'élite qui n'est pas vraiment l'élite culturelle, une élite qui, au fond, a tiré son bénéfice de la mondialisation, etc. Enfin bon, bref, ce sont des choses que l'on sait. Donc ce n'est pas non plus, à prendre au pied de la lettre comme un progrès, de la culture et de l'exercice.
Oui, mais ils sont moins suspects de corruption, paradoxalement, c'est ce que semble dire.
Oui, mais alors d'une certaine façon, c'est un peu le contraire, parce que les conflits d'intérêts risquent, je suis tout à fait d'accord, de se creuser et de se multiplier. Donc il y a ici une espèce de cercle vicieux. Et puis alors, il y a surtout, quand on dit faire de la politique autrement, si je reprends cette expression, là aussi, c'est une expression qui est assez vague. Hein, faire de la politique autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'il faut faire de la politique avec d'autres institutions? Est-ce qu'il faut faire de la politique avec d'autres qualités morales? Est-ce qu'il faut faire de la politique avec d'autres pratiques?
Avec d'autres citoyens, peut-être.
Voilà, c'est ça. Donc tout ça. Et au fond, il y a quelque chose qui, moi, me frappe
beaucoup. Un peuple
beaucoup,
de Dieu, par exemple.
Voilà, qui est une espèce de, au fond, je vais dire quelque chose qui va paraître énorme, de méconnaissance fondamentale du fait que la politique est impure. Et qu'elle est nécessairement impure. Et que, au fond, c'est non pas du tout que la politique, c'est pas du tout, je veux pas dire que la politique, c'est, mais quand je dis que la politique est impure, encore une fois, la politique n'est pas, par essence, vertueuse. Mais elle n'est ni vertueuse, ni vicieuse. Elle est, vous disiez, Patrick, qu'on n'arrive jamais à une adéquation parfaite. Vous parlez de dilemmes moraux. Moi, j'irais encore plus loin. Je dirais qu'il y a quelque chose de tragique. Hein, dans l'exercice de la politique, c'est des conflits qui ne peuvent pas être résolus. On ne peut pas tout satisfaire. Quand on choisit, on ne choisit pas toutes les solutions à la fois.
Est-ce que vous aviez jusqu'à dire les uns et les autres, Pierre Lescot, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que c'est un des reproches qui est fait à cette approche par la morale, de la moralisation de la vie politique, c'est de dire un homme politique vertueux n'est pas forcément un homme politique efficace. Et c'est vrai qu'on a vu, par exemple, quelqu'un comme Frédéric Sinclair, qui est un analyste qui s'est exprimé dans le Figaro Vox, dans une interview récemment sur ces questions-là, dire c'est bien gentil de parler de moralisation de la vie publique, mais est-ce qu'un homme politique moral est un homme politique efficace? Or, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un étalon important.
Pour reprendre l'idée de Philippe tout à l'heure, et sans aller jusqu'à la dimension tragique que Madame Revaud-Dallon a soulevée, moi je voudrais insister sur quelque chose que beaucoup d'enquêtes ont montré dans à peu près tous les régimes démocratiques. Hein. C'est le fait que les citoyens eux-mêmes sont ambivalents. Très profondément. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des revendications de respect des grands principes, rendre des comptes dans l'exercice des fonctions, etc. Il n'y a aucune raison qu'un homme politique, vous présentez ça comme une évidence, qu'un homme politique va obtenir des privilèges. On ne devrait plus envisager les choses sous cet angle-là. C'est plutôt des responsabilités. Voilà, c'est plutôt une contrainte quand même, plutôt qu'un privilège. Hein. Privilège d'argent, peut-être de rémunération. Bon.
Oui, enfin, il y avait par exemple la cour de la République, façon de juger les ministres par une cour spéciale, une forme de privilège.
C'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que aussi les citoyens donc revendiquent quand on les fait parler, le respect de grands principes, mais en même temps. Par rapport à votre question, ils recherchent aussi de l'efficacité. Et c'est pour cela que toute une série d'hommes politiques, et ne parlons que de, par exemple, M. Ferrand, qui dans sa circonscription a été mis en cause pour un certain nombre de pratiques qui sont plus ou moins légales, enfin on verra bien, mais fait obstacle à ce que les citoyens lui accordent leur confiance. Et le critère principal, il y en a deux, les critères principaux sur lesquels les gens votent, on oublie toujours, c'est des grandes convictions idéologiques et d'autre part, la capacité de l'homme politique ou de la femme politique à obtenir un certain nombre de résultats, c'est-à-dire leur efficacité, on peut dire, dans l'action territoriale. Alors le reste, c'est assez secondaire.
Patrick Savidan.
Alors moi, je prendrais un peu le contre-pied, si vous le permettez, sur cette question-là. Je serais tenté de dire que l'efficacité est une condition éthique dans un contexte démocratique. C'est-à-dire que tout dépend de la façon dont on entend l'efficacité. Les Français ne sont pas idiots, ils savent bien qu'on vit dans un monde indéterminé, avec beaucoup d'incertitudes, et que des politiques peuvent fonctionner plus ou moins bien, etc. Par contre, ils sont très attentifs à l'efficacité que le politique peut revendiquer dans sa capacité à représenter les intérêts digne d'être pris en compte par les politiques. Et c'est cette efficacité-là qui, dans un contexte démocratique, est importante et qui peut justifier ou, en tous les cas, faire passer les échecs ou les limites des politiques publiques elles-mêmes, tout simplement parce qu'on aura le sentiment que le politique a fait le boulot. Il a rencontré les gens qu'il fallait rencontrer, il a essayé de prendre en compte les intérêts légitimes.
Myriam Revaud-Dallon, très rapidement, cette efficacité est de nature à rétablir la confiance avec les gens qui nous représentent, avec cette représentation qui est mise à mal.
Oui, mais alors à condition, encore une fois, de préciser ce qu'on entend par efficacité, puisque c'est pas non plus, je pense pas que l'efficacité ici, ça signifie tout simplement la fin justifie les moyens. Hein, c'est pas ça. C'est l'efficacité entendue en ce sens, c'est la capacité au fond à exercer au fond les responsabilités publiques au nom des citoyens.
Pas au nom de l'intérêt général.
Mais au nom de, voilà,
donc pas forcément des résultats proprement parlés. Voilà, je ne sais pas, baisse du chômage.
Voilà, ce genre c'est ça. Et puis, quand je parlais de tragique, je ne voulais pas du tout donner une dimension pathétique ou excessive.
Non, mais un choix tragique. On ne l'a pas pris comme ça, Myriam Revaud-Dallon.
Je voulais dire qu'il y avait des conflits qui étaient des conflits insolubles.
Et c'est au cœur de votre dernier ouvrage, Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique. Merci, Myriam Revaud-Dallon, d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Patrick Savidan et à Pierre Lascoum. Toutes les références vous concernant seront sur la page du Grain à Moudre d'été. L'émission a été préparée par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Montilly. À la réalisation ce soir, c'était Anne-Laure Chanel et à la prise de son, Anthony Thomasson.